Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, les élections de mi-mandat aux Philippines.
Oui, c'était dimanche dernier, c'est mid-term pour le président Rodrigo Duterte qui renforcerait son assise au Parlement et au Sénat selon des résultats non officiels. Ceci malgré ou en raison d'une politique anti-drogue meurtrière qui lui valent des accusations de crimes contre l'humanité. 3 ans après son élection, en tout cas, Duterte incarne en Asie du Sud-Est un autoritarisme réellement populaire. Est-il si solide? On voit ça avec vous, Yves Boquet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes professeur de géographie à l'Université de Bourgogne, auteur de L'avenir des Philippines, un archipel dans la mondialisation, aux éditions universitaires de Dijon. Alors là, il y avait 18 000 sièges à pourvoir en tout. En sortant du bureau de vote dimanche, Duterte avait revendiqué un référendum sur sa politique. Cette fois-ci, on aurait 94 des bulletins dépouillés par un organisme de contrôle. Duterte serait confirmé, voire plébiscité, puisqu'il remporterait 9 sur les 12 sièges en jeu pour le Sénat. C'est assez énorme, ça.
Oui, tout à fait. C'est un grand succès pour lui parce qu'aucun des membres du parti du principal groupe d'opposition n'a réussi à passer dans les 12 sénateurs élus.
Oui, c'est ça. Alors, ce Sénat, il y avait donc la moitié des sièges à renouveler. On va revenir dessus, mais plus que ça, encore une fois, selon ces résultats provisoires, mais 94 des bulletins, c'est important. Ce serait même un carton plein pour Duterte et sa famille, non?
Oui, tout à fait, parce que dans sa ville d'origine à Davao, c'est sa fille qui a été reconduite comme maire. Un de ses fils est vice-maire, et puis l'autre fils a été élu député. Donc là, c'est la famille Duterte qui contrôle complètement la vie politique à Davao.
Oui, et alors, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui compte aujourd'hui, sans avoir encore les résultats?
Aujourd'hui, c'est le Sénat qui est le plus important, parce que les sénateurs sont élus pour une période relativement longue de 6 ans. Ils sont relativement peu nombreux et traditionnellement, le Sénat aux Philippines est un organisme qui a fait un petit peu contrepoids au président. Cette fois-ci, bon, c'est un organisme, le Sénat, qui va être pour le président puisqu'il aura une claire majorité au Sénat pour faire passer un certain nombre de réformes très controversées dont il a parlé depuis plusieurs mois.
Et parmi ces sénateurs, il y a ceux que un des sites de médias indépendants appelle les Duterte Boys, notamment voilà, un qui s'appelle Bongo et l'autre De La Rosa. Qui c'est, oui?
Christophe Bongo, c'est un assistant de Duterte depuis des années. C'est quelqu'un qui n'a jamais été élu à quoi que ce soit, qui est simplement un bras droit du président, son homme un petit peu à tout faire, qui a été élu. Également élu pour la première fois, Monsieur De La Rosa, qui était l'ancien chef de la police, qui au début de la présidence de Duterte était en fait responsable de la lutte anti-drogue et qu'on a accusé de couvrir un petit peu tous ces assassinats extra-légaux qui ont eu lieu.
Oui, ces assassinats qui seraient 5281, je crois, voilà, officiellement, selon la police, mais qui seraient sans doute bien plus selon des ONG. Hein. Certains parlent de jusqu'à 20 000 morts. Qu'est-ce que ça implique, alors, la présence de ces deux Duterte Boys, le fait qu'il y ait l'opposition balayée au Sénat? Ça veut dire qu'on aurait un Sénat moins centriste qu'auparavant, comme beaucoup d'observateurs ont dit que ce Sénat était, en gros, l'institution de tempérance.
Voilà, tout à fait. Bon, ça veut dire que, par exemple, le projet de rétablir la peine de mort aux Philippines pourrait passer avec ce nouveau Sénat, hein, qui le Sénat précédent s'y opposait. De même, la campagne anti-drogue va se poursuivre. Et puis, bon, l'opposition qui dénonçait un petit peu les relations trop fortes de Duterte avec la Chine, là, cette fois-ci, Duterte va pouvoir continuer sa politique, son virage politique en direction de la Chine.
Oui, on va redire un mot de la Chine concernant la peine de mort. Alors, elle a été établie, abolie, rétablie, puis réabolie aux Philippines.
Voilà, depuis 87, elle a été abolie, rétablie avec un autre président, à nouveau abolie. Et là, bon, il y a des chances qu'elle revienne. Peine de mort qui, d'ailleurs, est appliquée dans beaucoup de pays de la région, par exemple en Indonésie ou à Singapour.
Oui, et ceci malgré l'opposition d'un certain nombre d'autorités catholiques, comme ça avait
été. Voilà, tout à fait. Bon, alors ce qui est assez surprenant, c'est que l'Église catholique a quand même un poids important aux Philippines. C'est le troisième pays catholique au monde, avec un évêque de Manille qui est un possible futur pape. Bon, l'Église catholique n'a pas réussi à bloquer le président, alors que le président a attaqué très violemment, à la fois le clergé et la foi catholique elle-même,
oui.
En s'en prenant à la Sainte Trinité dans des discours extrêmement brutaux.
Il était question aussi dans la campagne d'abaisser l'âge de la responsabilité pénale de 15 à 12 ans. Qu'est-ce que ça signifie et à quelle place ça a dans la politique?
Disons qu'il y a beaucoup de petites criminalités, beaucoup de gamins qui volent, etc. Donc c'est très très critiqué. Déjà, la responsabilité pénale à 15 ans, c'est relativement jeune. La descendre à 12 ans, ça... Les tenants des droits de l'homme sont absolument horrifiés par cette perspective.
Oui, donc si on analyse un peu les résultats de cette élection, en quelque sorte, on aurait un plébiscite principalement pour cette politique anti-drogue et répressive, voilà. C'est un peu ça?
Voilà, tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les élections, il y a aussi les élections législatives. Bon, avec la majorité des 4 députés sur 5 sont élus sur des districts, et il y a un cinquième des députés qui sont élus sur un scrutin de liste à la proportionnelle, et le parti qui est arrivé en tête, c'est un parti qui est un parti anti-crime, qui est arrivé en premier, et un parti anticorruption qui est arrivé quatrième.
Oui, donc deux partis qui sont des partis traditionnellement alliés au PDP Laban de Rodrigo Duterte.
Voilà, tout à fait. Alors, dans cette élection parallèle de ce qu'on appelle le parti liste aux Philippines, bon, le parti qui est deuxième, c'est un parti traditionnel d'extrême-gauche, qui d'habitude était le premier parti, ce qui permettait, si vous voulez, un petit peu comme... si on garantissait au moins un ou deux sièges à l'extrême gauche. Donc là, ils sont deuxième. Et puis le troisième parti, c'est un parti régional. Hein, donc il y a différents lobbies qui sont représentés. Le parti des marins aura également sans doute un ou deux députés. Le parti des femmes en aura un aussi. Hein, donc
Et des partis dont
le parti anti-crime et le parti anti-corruption qui ont très bien marché.
Oui,
qui
oui.
Sont des partis nouveaux.
Oui, donc de ce point de vue-là, ça continue le carton plein, si on peut dire. De là à dire que ça offre un boulevard pour le deuxième grand projet de Duterte, qui était la réforme constitutionnelle. Pour l'instant, il y a un mandat unique de 6 ans. On dit qu'il voudrait peut-être l'étendre. Est-ce que c'est avéré? Est-ce que désormais un boulevard lui est ouvert?
Alors, la grosse question, c'est de savoir si lui voudrait déjà se représenter. Alors, il a affirmé qu'il ne le ferait pas, qu'il était fatigué, que si quelqu'un prenait sa place, il serait content. Mais en même temps, bon, il préparerait une réforme constitutionnelle qui, effectivement, donnerait au président la possibilité de rester plus longtemps. Le seul président qui soit resté longtemps, c'était Ferdinand Marcos. Et il y a beaucoup de gens qui font des comparaisons avec la dictature de Marcos dans les années 60-70.
Oui. Donc de ce point de vue-là, ce qu'il faut comprendre de cette élection, c'est quoi? C'est que cette politique de la violence, on pourrait dire anti-drogue, loin d'être un frein, c'est au contraire le principal atout et le catalyseur des votes philippins aujourd'hui?
Disons, ce que les gens semblent apprécier chez Duterte, c'est que c'est un président qui dit ce qu'il va faire et qui fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Hein, c'est un président qui prend les problèmes à bras-le-corps, à la différence du président précédent, Aquino, qui était accusé d'être un président assez paresseux. Duterte, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la politique un petit peu brutale, c'est quelqu'un qui fait des choses. Hein, et ça, je crois que dans les commentaires, pas mal de Philippins disent « bon, c'est un président qui est là et qui préside ».
Oui, et avec quelle solidité justement, puisqu'il y a une chose du moins qui lui a été beaucoup reprochée à chaque fois qu'il revient dans les sondages d'opinion assez défavorablement, je crois que 8 Philippins sur 10 sont contre sa politique, c'est la relation avec la Chine, dans laquelle Duterte avait un atout en ayant gagné devant la cour pénale d'arbitrage.
Les Philippines avaient gagné quelques jours après l'élection de Duterte, les Philippines avait gagné un procès contre la Chine auprès de la Cour d'arbitrage à La Haye.
Et désormais, on se retrouve avec...
n'a rien fait pour valoriser cette victoire juridique. Et en fait, il a laissé plus ou moins les Chinois s'installer davantage sur les îles de la mer de Chine du Sud, les militariser. Et puis en même temps, il a, dans sa politique de grands projets d'infrastructure, il a sollicité un certain nombre de prêts chinois. Des prêts chinois dont les opposants à Duterte disent attention, là, la Chine est en train de mettre la main sur les Philippines. Les Philippines sont en train de conclure des prêts les Philippines prisonnières de la Chine. Comme d'ailleurs en Malaisie, le premier ministre malaisien, quand il est revenu, a dit bon, j'annule un certain nombre de prêts parce que c'est pas bon pour mon pays.
Oui, là, il était question de 24 milliards d'euros d'investissement chinois sur 2 ans. Et effectivement, il y a l'opposition qui a dénoncé ce fameux piège de la dette. Et puis peut-être dernière zone d'ombre pour son mandat, c'est cette question des groupes armés différents. Alors il y a eu un accord qui a été conclu avec le FMLN, Front Moro de Libération Nationale, un des groupes de...
Avec le MILF.
Pardon, le MILF.
Mouvement islamique de libération.
Mouvement islamique de libération pour la création d'une région autonome dans le sud. Mais par contre, il y a encore justement ce MLNF et puis le parti du peuple, la rébellion marxiste.
Voilà, ben, c'est la NPA hein, qui continue à faire. Bon, c'est un mouvement qui existe depuis 50 ans, hein, mouvement communiste qui demande, enfin maoïste, hein, qui mène des attaques par-ci par-là dans les plantations, qui fait un petit peu de raquettes dans les régions rurales et Duterte a décidé de couper tous les ponts avec les leaders de ce mouvement. Il avait essayé un petit peu de négocier avec eux. Et pour l'instant, c'est au point mort.
Écoutez, ce sera à suivre ces discussions. Effectivement, il avait laissé une ouverture, mais avec le prochain président, avait-il dit. En tout cas, merci pour vos explications ce matin, Yves Bocquet. Je rappelle le titre de votre livre, L'avenir des Philippines, un archipel dans la mondialisation. Bonne journée.
Voilà, merci, bonne journée, au revoir.
Au revoir.